Wilfried Sondé, bonjour.
Bonjour Yvan Amar.
Merci beaucoup d'accepter cet entretien pour le site de la Danse des mots. La Reine aux yeux de lune, c'est le titre de votre dernier roman, c'est le 8e. Il est paru assez récemment aux éditions Robert Laffont. Un roman historique d'une certaine façon, qui se situe à la fin du XVIIe siècle, en 1685, en Afrique, au Congo, et qui raconte les débuts, disons, de la colonisation portugaise à un moment clé de cette colonisation, avec un personnage tout à fait extraordinaire, qui est donc cette reine aux yeux de lune, qui va essayer de sauver l'empire du Congo et de lui restaurer son ancienne puissance, hélas, sans y arriver. Alors, j'ai parlé de roman historique. Est-ce que c'est un genre qui vous convient ?
Oui, alors j'assume le label roman historique sur ce texte parce que effectivement, je m'empare d'un personnage, Kimpa Vita, qui a vraiment existé dans le passé. Les faits sont vraiment passés. Ce n'est pas une fiction pure. Le grand intérêt pour moi d'un roman historique comme celui-ci, c'est que je suis libre d'inventer toute la subjectivité, toute l'intériorité du personnage, ce à quoi les historiens s'intéressent peu.
Donc ça vous permet de mélanger des personnages réels que vous faites parler, que vous réinventez peut-être, et des personnages tout à fait inventés. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Pedro Cabral, il y en a un autre qui s'appelle Luis López de Sequeira. Il a existé celui-là, j'imagine.
En vérité, tous les personnages ont vraiment existé, à l'exception de ma Luisa. Les généraux, les rois, les ecclésiastiques, tous.
Et puis, bien sûr, il y a ce personnage central qui est la reine aux yeux de lune, celle que vous appelez comme ça dans le titre de votre roman, qui est Kimpa Vita. Et celle-là aussi, elle a existé. Dites-moi un petit peu sous quelle forme, Wilfried.
Eh bien, Kimpa Vita a vraiment existé, elle était prophétesse et résistante. Elle reste au XXIe siècle une figure très importante. Hein. Elle est célébrée notamment par les afro-féministes parce qu'elle a eu la grandeur et l'intelligence de résister contre les colons portugais, mais aussi contre les agissements des élites locales. Et c'est une dualité qui reste contemporaine. La prédation est double. Et c'est une conscience qu'avait déjà Kimpa Vita. Son idée, son attention allait aux populations, aux plus humbles, ceux dont on ne parle pas. Son souci, c'était de faire en sorte que les gens du quotidien vivent mieux. Sa fin a été précipitée parce qu'elle a eu, encore une fois, naïvement, des velléités d'émancipation. Elle a entendu disposer librement de son cœur et de son corps et elle a payé cher.
Alors, Wilfried Sondé, comment vous êtes-vous documenté pour écrire ça ?
Je connaissais bien le contexte, mais après, j'ai la chance d'avoir un frère qui est historien, qui est spécialiste du royaume du Congo. C'est lui qui m'a fourni en documents. Il ne restait plus que de faire le tri et de transformer les faits historiques en pâtes romanesques. Il y a beaucoup de documentation sur Kimpa Vita. Parce qu'il y a beaucoup de documents sur le royaume du Congo. L'histoire du royaume du Congo et du royaume du Portugal est vraiment particulière, dans le sens où c'est une histoire qui commence à la fin du XVe siècle. Pas une histoire de colonisation, c'est une histoire de coopération entre deux royaumes. Et c'est à partir de la défaite de 1685 que la relation bascule en une relation qui va se développer sur deux siècles en colonisation, en domination. Mais à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, on n'en est pas encore vraiment là. L'histoire du Portugal et du Royaume du Congo est une exception. En vérité, on peut parler de colonisation à partir de la fin du XIXe siècle. On a 400 ans d'histoire qui n'est pas de la colonisation. Quand les Portugais arrivent au XVe siècle au Congo, ils sont en quête de partenaires.
Alors c'est tout à fait intéressant ça, Wilfried Sondé, parce que vous disiez il y a un instant que vous aviez un frère historien. Est-ce que c'est pour constituer une histoire de l'Afrique plus connue de beaucoup de gens que vous travaillez de façon littéraire ?
Oui, mais je préciserai que je n'ai pas la prétention de raconter toute l'histoire et de rendre toute la dimension de Kimpa Vita. Mais je pense que quand on lit le livre, on s'attache à elle et peut-être ensuite on veut en savoir plus.
Fritz Sondé, précisez-nous un petit peu où tout cela se passe. De quel empire parlez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce Congo-là?
Alors, ce Congo-là, c'est le royaume du peuple Tebakongo, le nord de l'Angola, la région qu'on appelle le Congo central, qui est au sud-ouest de la République démocratique du Congo, le sud du Congo-Brazzaville, donc Brazzaville est la région du Poule, et une partie aussi du sud du Gabon. C'est un royaume qui a été dépecé définitivement à la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, ce qui fait que voilà, oui, les Bakongo au 21e siècle sont un peuple sur quatre États.
Alors, Wilfried Sondé, revenons un peu à votre héroïne principale. Dites-nous comment elle s'appelle et que signifie son nom, d'où vient-il?
Alors, elle s'appelle Kimpa Vita. C'est un nom qu'on peut traduire en français comme la jumelle née de la guerre. On estime qu'elle avait déjà combattu et survécu dans sa gestation, ce qui faisait d'elle quelqu'un de particulier. Et toute sa vie était une vie de résistance. Il faut quand même noter qu'elle était pacifiste. Elle avait une envie de gagner sans se battre, en convaincant plutôt qu'en soumettant.
Voilà. Mais alors, toute l'identité de ce personnage se place sous le signe de la dualité. Il y avait au départ deux jumelles, l'une meurt, l'autre survit. Et puis, elle a deux cultures, une culture africaine et une culture jésuite. Elle a deux langues, elle est traductrice. Ah, c'est une jeune fille, c'est une humaine, mais elle a partie liée avec toute une vie spirituelle, avec autre chose.
Oui, alors je pense que c'est cette dualité-là, elle est exacerbée chez Kimpa Vita, mais c'est le lot de chacun. Comment faire pour que cette dualité existe dans l'harmonie? Elle était initiée de manière traditionnelle à la spiritualité des Bakongo, elle était initiée de manière traditionnelle au christianisme, elle a pensé un syncrétisme que j'interprète moi comme l'ambition de trouver dans le sacré de chaque peuple quelque chose d'universel. Elle a déshabillé le christianisme de tout l'aspect institutionnel, elle a gardé l'amour du Christ, l'amour du prochain, et elle a trouvé des passerelles, des ponts avec la spiritualité des Bakongo. Voilà, et avec ça, elle a essayé de mettre en avant un espace spirituel où chaque être humain pouvait se retrouver. Voilà, c'est quelque chose qui me semble aussi extrêmement contemporain. Je pense qu'il est sain d'essayer de réfléchir à des espaces, surtout spirituels, parce qu'ils sont essentiels, où on se retrouve, où la différence de l'autre n'est plus une espèce de repoussoir. Ça a été, je pense, l'ambition de Kimpa Vita.
En même temps, c'est un personnage tout à fait extraordinaire que Kimpa Vita, qui progressivement va sentir qu'elle a peut-être une mission, qui est donc de restaurer la puissance de cet empire qui est en train de se désagréger.
Oui, elle est née dans un pays exsangue, dans un pays choqué, qui ne savait plus comment exister. Vous savez que quand on parle par exemple de traite transatlantique, 90% des déportés l'ont été au XVIIIe siècle. C'est le début de l'enfer. L'Kimpa Vita est une personne qui se rend compte de ça. Et c'est peut-être la dernière tentative de sauver ce qui est encore possible de sauver. Elle n'y arrivera pas. Pendant 2 ans, les gens ont cru à une amélioration. Après ça, c'était une espèce de descente aux enfers jusqu'à la colonisation du XXe siècle.
En même temps, Wilfried Sondé, vous jouez avec l'histoire et avec des personnages que tous les lecteurs francophones ont dans la tête. Par exemple, Jeanne d'Arc. Assez vite, on se dit « Oh, c'est une sorte de Jeanne d'Arc africaine ». D'abord parce qu'elle essaye de voir le roi pour lui redonner confiance. Elle n'y arrivera pas, mais elle essaye. Elle est reçue par le roi. Il l'écoute. Et puis ensuite, il y a sa virginité. Le fait que justement, tant que c'est une jeune fille, elle est une humaine comme les autres et en même temps pas totalement comme les autres.
Alors, c'est pas moi qui invente que Kimpa Vita a des aspects de Jeanne d'Arc ou l'inverse. Parce que oui, c'est deux royaumes en plein doute, qui subissent l'agression d'un royaume étranger, un peuple désorienté qui s'appuie sur une jeune femme qu'on élève au rang d'icône avec un corpus mystique. La Jeanne d'Arc entendait des voix, Kim Pavita, c'est carrément, elle s'entretient avec Dieu puisqu'elle meurt le vendredi soir, il ressuscite le dimanche matin. Donc oui, les parallèles sont là. Les différences entre Jeanne d'Arc et Kim Pavita, c'est que Jeanne d'Arc s'est battue, Kim Pavita jamais. Et Kim Pavita a fait le choix de disposer librement de son corps, donc elle est sortie de sa virginité. Jeanne d'Arc, non. Au final, elles ont fini sur le bûcher quand même. Voilà.
Mais ça aussi, c'est intéressant à propos de Kim Pavita, justement, qui est cette jeune fille vierge qui, tant qu'elle le reste, est un petit peu au-dessus du reste de l'humanité. Et puis, tout d'un coup, elle tombe amoureuse et elle décide d'opter pour un certain bonheur humain. Le bonheur des sentiments, le bonheur de la chair, et elle devient presque une humaine comme une autre. Et à ce moment-là, elle perd son pouvoir et son ascendant sur les autres. Et c'est la fin de son trajet historique, d'une certaine façon.
Oui, oui, c'est comme si nous, les êtres humains, surtout en situation de crise, on avait besoin de nous appuyer, d'inventer des êtres exceptionnels. Et on a besoin qu'ils restent exceptionnels. Mais en même temps, on leur fait payer cher. Comme si, au lieu de nous sublimer nous-mêmes, on a besoin que d'autres se subliment à notre place. C'est quand même assez terrible. Toute son armée est démotivée dès l'instant où il s'invente des raisons de penser qu'elle n'est pas celle qu'elle prétendait être. Or, ce n'est pas elle qui a voulu devenir une icône.
Mais en même temps, elle a eu une éducation qui l'y pousse. En particulier, tout ce beau passage sur son initiation. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous avez vérifié, qui a existé dans cette culture Bakongo, que ces initiations absolument terribles? Comment vous appelez ça dans votre roman?
L'épreuve de la difficulté. Il y a un paradoxe, parce que c'est une initiation secrète. Toujours est-il que c'était une série d'épreuves pour savoir s'ils avaient la force et les ressources de diriger le peuple. Et donc, on ne peut que supposer que Kim Pavita ait participé à ça, puisque c'est secret.
Voilà. En tout cas, c'est assez terrible. On peut écouter d'ailleurs un petit extrait de votre livre qui en fait état.
Au dernier jour de l'épreuve, je n'avais plus que la peau sur les os. Mes yeux de lune ressemblaient sans doute à deux nuages gris et épais, annonciateurs d'une catastrophe à venir. Je délirais sous la fournaise de midi. Ma sœur apparaissait et déployait sa chevelure à l'infini pour me protéger des rayons ardents. Déterminée à ne pas faillir, je luttais pour ne pas m'effondrer, les yeux fermés. Près de moi, le maître, ou peut-être était-ce un esprit, chantait et me demandait de répéter après lui. Un filet de voix faible et tremblant s'échappa de mes lèvres. « Désormais, tu es mon frère, ma sœur. L'enfant a disparu, reconstitué son corps. J'ai désiré les rites de l'épreuve. J'ai voulu revêtir les vêtements de gloire. Que je meure deux fois, trois fois, toujours je saurai recoudre ma natte, si usée soit-elle. » Kimpa Vita avait réussi. J'avais traversé les difficultés, avais maintes fois ressuscité. J'étais prête, me tenais sur mes deux jambes, seule, face aux anciens initiés, aux maîtres. Je pris conscience de ma solitude. J'étais la seule candidate à être allée au bout de l'initiation.
Alors, Wilfried Sandé, maintenant, un mot sur votre façon d'écrire. C'est un roman, mais est-ce que c'est un roman du il ou du elle ou un roman du je? La plupart des chapitres font parler Kim Pavita, qui raconte son histoire. Même si ce sont des choses auxquelles elle ne devrait pas avoir accès. Par exemple, elle raconte sa naissance en disant je. Et puis, il y a un certain nombre d'autres chapitres où c'est « Elle a fait ceci, le roi a fait cela, etc. » Donc, il y a une sorte de balance entre le roman du jeu et le roman du il. Éclairez-nous un petit peu sur vos techniques d'écriture, Wilfried.
Quand on se parle d'un personnage comme Kim Pavita, la narration est compliquée, puisque c'est quelqu'un qui était convaincu que Saint Antoine de Padoue vivait en elle. Donc il est difficile de savoir quand est-ce que c'est elle qui parle, quand est-ce que c'est lui qui parle. Et puis, voilà, elle a tout ce corpus mystique, ce rapport avec les ancêtres, même avec Dieu, puisqu'elle s'entretient aussi avec Dieu, qui forcément, me suis dit, lui donne une espèce de capacité à avoir une vision panoramique. Je me suis mis à sa place, je me suis dit, tiens, mais si elle raconte sa vie, elle raconte forcément selon plusieurs points de vue. Comme c'est quand même une seule personne cohérente, il faut que tout ça reste fluide et qu'on comprenne bien que c'est toujours elle qui raconte sa vie. Et quand on est comme Kim Pavita, on peut raconter sa naissance, on peut raconter sa mort. Je suis très conscient que c'était un challenge. Mais et c'est aussi pratique dans un sens, parce que quand on est à la première personne, on n'a plus cette vision panoramique et on n'a plus accès aux enjeux politiques, religieux et ainsi de suite. Mais après, oui, ben, c'est toute la difficulté mais de lier, de délier les points de vue, de faire en sorte que tout ça reste cohérent. Mais ce n'était pas facile.
C'était pas facile, mais merci beaucoup de l'avoir réussi, Wilfried Sandé, et merci pour cet entretien. Je rappelle donc que votre livre, La Reine aux yeux de lune, est paru aux éditions Robert Laffont.